Jamais la question du bien-être animal ne s'est autant posée qu'aujourd'hui. La loi sur le bien-être animal votée cette année prévoit entre autres d'interdire la détention et la reproduction d'animaux sauvages, à la fois dans les cirques mais aussi les delphinariums. Récemment, le Conseil d'État a interdit la chasse à la glu et puis l'an dernier, des associations et quelques entrepreneurs de la tech française lançaient une pétition pour organiser un référendum d'initiative partagée, toujours sur cette question. L'Europe devrait interdire l'élevage en cage sous la pression citoyenne et on ne compte pas le nombre de livres sortis cette année. Mais si le regard change, les pratiques, peut-être pas. Ou alors ça se voit moins. Pourtant, la crise environnementale nous pousse à modifier nos comportements vis-à-vis des animaux, qu'ils soient domestiques, d'élevage ou sauvages. Elle nous pousse aussi à transformer plus généralement notre rapport avec la nature, faute de quoi, comme l'avancent certains chercheurs, on court droit vers une sixième extinction, la nôtre, après celle des dinosaures. L'animal est-il l'avenir de l'homme ? C'est notre menu d'aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Et bien sûr, on attend dès à présent vos questions, vos commentaires sur l'appli ou sur le site de France Inter. Mais comme tous les jours, on commence l'émission en ouvrant le journal. Et c'est l'Obs qu'on feuillette aujourd'hui avec vous, Gurvan Le Guélec. Bonjour.
Bonjour Thomas Chauvineau.
Journaliste à l'Obs, vous signez un grand dossier qui fait d'ailleurs la une du journal sur les inégalités à l'école, que vous comparez à celles de pays en développement.
De pays en
voie de développement,
oui. Ou pays émergents, oui. On fait notre une sur la grande fracture scolaire. On s'intéresse au bien-être de nos enfants, nous, et aussi au bien-être de notre société, avec une grande fracture scolaire qui, c'est l'hypothèse qui traverse ce dossier, une grande fracture, excusez-moi, sociale, qu'on connaît tous avec les surgissements populistes, avec les discours anti-élites. Mais l'hypothèse, c'est que épuiserait un peu ses origines aussi dans une grande fracture scolaire, une fracture scolaire qu'on va retrouver dans plusieurs phénomènes, notamment, vous le disiez, dans ces inégalités de réussite entre enfants favorisés et défavorisés, qui sont hallucinantes. C'est vraiment le terme qu'on peut utiliser. On le sait, tous les trois ans, on a des enquêtes internationales qui tombent, les enquêtes PISA, et qui nous le répètent, on est au niveau, en termes d'inégalité entre les plus favorisés et les plus défavorisés, on est au niveau de pays comme la Bulgarie, la Roumanie, ou des pays d'Amérique latine, qui mettent pas du tout les mêmes moyens pour éduquer leurs enfants.
Et vous avez rencontré des collectifs de parents qui demandent un seuil minimal de mixité sociale dans les collèges et les lycées, pour le dire autrement, un système de quotas.
Un système de quotas, alors c'est l'autre question, il y a les inégalités, et puis dans cette fracture, il y a aussi la ségrégation. C'est ce qu'on constate, c'est que des tout petits aux plus grands, la maternelle au supérieur, mais surtout quand même beaucoup au collège où les trajectoires commencent à diverger, les enfants sont de moins en moins dans les mêmes établissements, entre le privé et le public, entre le public qui attire et le public qui attire pas. Ça peut être lié évidemment à la ségrégation territoriale, on le sait, dans notre pays il y a des grandes cités HLM qui ont perdu toute leur classe moyenne, c'est de plus en plus clivé, mais il y a aussi souvent des secteurs scolaires qui poussent complètement ces ségrégations, c'est-à-dire que les collectivités publiques, l'État, l'éducation nationale ne font rien pour essayer de décorréler un peu cette ségrégation territoriale et puis ce qu'on retrouve dans les collèges. Et donc oui, il y a des collectifs de parents que je suis allé voir dans plusieurs grandes villes de France, à Montpellier avec les mamans du petit bar, avec nos ghettos à Lyon, qui se battent pour dire pour que les élus aient le courage de refaire les cartes pour essayer de mélanger nos enfants de milieux différents, ce qui apporte scolairement à tout le monde. Pour qu'ils aient ce courage-là, sachant que politiquement c'est compliqué, c'est peut-être pas mal d'avoir une loi derrière qui leur dise il faut quand même avoir un minimum de mixité, un équilibre, pour que tout le monde ait... parce que personne n'a envie d'envoyer de fait son enfant dans un collège ghetto.
D'autant que la recherche a démontré que la mixité jouait autant sur le niveau que sur les capacités de projection des élèves les plus défavorisés.
Oui. On pouvait intuitivement l'imaginer. C'est quand même pas mal d'avoir dans sa classe des gamins de tout milieu, avec des parents qui ont éventuellement fait des études supérieures, qui voilà, vous avez des référents qui sont différents. Donc non seulement ça vous booste d'un point de vue scolaire, puis ça peut aussi vous donner envie, ce qu'on constate dans les quelques expériences qui ont été lancées depuis 5 ans, et c'est ça qui donne un peu d'espoir. C'est pas totalement négatif notre affaire. Il y a des expériences trop ponctuelles malheureusement, et on voit que les jeunes, au moins en tout cas sur les aspirations, ça bouge. Et puis après, il y a tout le côté, éducatif tout simplement. Hein. L'école, c'est pas seulement les apprentissages, aussi faire société pour demain, réussir à se parler, se connaître. Quand on s'est jamais côtoyé, il y a plus de service militaire, il y a plus vraiment d'endroits où nos enfants se rencontrent. Si on s'est pas rencontré à l'école, après, ça peut devenir compliqué pour le débat public plus tard. Ce qu'on voit, qu'on commence à voir émerger d'ailleurs peut-être dans notre société.
Et ce que vous racontez aussi, et on terminera là-dessus, c'est que quand il y a des expériences qui sont menées, vous racontez notamment celle qui a lieu au collège Hector Berlioz dans le 18e à Paris, on se rend compte que ça fonctionne. Il faut simplement s'y mettre.
Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a deux grandes expériences qui portent vraiment leurs fruits à Toulouse, où il y a deux collèges du Mirail et la Grande Cité qui ont été fermés. Les enfants ont été dispatchés parce que les résultats étaient vraiment trop catastrophiques, parce que le collège était anticipé par les problèmes de violence. Les enfants ont été dispatchés dans les collèges plus favorisés à travers la métropole. Bah, ça porte ses fruits. Et puis à Berlioz, c'est deux collèges, l'un très défavorisé, très ghettoisé, alors que le quartier n'était pas tant que ça. Mais les parents n'osaient pas envoyer leurs enfants dans ce collège parce que réputation, etc. Donc on a plus ou moins, il faut lire le dossier pour comprendre, c'est un peu plus compliqué, mais on a plus ou moins fusionné avec un collège plus favorisé au-dessus sur la ville de Montmartre, donc dans les quartiers un peu plus aisés. Et de fait, maintenant, ça fait un mélange qui est probant, qui porte ses fruits. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique derrière pour pousser ces sujets, ce qu'on essaie de faire, parce que c'est notre petit constat un peu plus amer qu'on dresse, c'est que il y a des élus très mobilisés pour défendre tout ça, il y a des collectifs de parents qui se bougent aussi, mais politiquement, nous,
ils sont pas nombreux.
À droite d'ailleurs, il y a vraiment le courage de s'attaquer à cette question.
Ben merci Gurvan Le Guélec. Ce dossier donc est à retrouver dans l'Obs de ce jeudi 26 août. Merci à vous, bonne journée.
Merci beaucoup.
Moi, j'aimais vous dire que la première fois que j'ai entendu mon chien parler, j'étais surpris. C'était un soir, après dîner, j'étais allongé sur le tapis. J'étais pas de très bon poil. Mon chien était assis dans mon fauteuil. Il regardait la télé. Il était pas dans son assiette non plus. Je le sentais, parce que à force de vivre avec mon chien, le chien, je le sens. J'ai un flair terrible. Et tout d'un coup, mon chien me dit, à brûle pour point, on pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. J'ai pas fait attention tout de suite. J'ai dit, mais c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Subitement, j'ai réalisé que je parlais à un chien. J'ai dit, tiens, tu n'es qu'une bête, je ne veux pas discuter avec toi. Enfin quoi, un chien qui parle? Est-ce que j'aboie, moi? Hein?
Un extrait d'un sketch de Raymond Devos, Mon chien, c'est quelqu'un, c'est le titre du sketch. Et 4 invités aujourd'hui pour s'intéresser au bien-être animal et essayer de répondre à cette question. L'animal est-il l'avenir de l'homme? Marine Calmet, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes avocate en duplex de France Bleu Gard-Lozère et merci d'ailleurs aux techniciens à France Bleu Gard-Lozère de nous permettre cette liaison. Joël Sachs, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de philosophie sociale et vous enseignez notamment à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez également publié aux éditions Premier Parallèle Zoo Cities. Hélène Saint-Gier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Le 1 qui consacre toute une série d'étés hors série justement au monde sauvage. Et enfin Sabrina Krief, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la fois primatologue et vétérinaire et vous revenez d'Ouganda il y a quelques jours. Merci à toutes les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je le disais, hein, l'hebdo Le 1 consacre 3 numéros hors série qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Internet, sur le site lhebdo.fr, au monde sauvage. Dans le premier numéro, il y a une interview du président du Muséum National d'Histoire Naturelle, Bruno David, qui dit « Il n'y a pas d'hécatombe brutale, pas de cadavres d'animaux qui jonchent le sol, mais des générations de moins en moins abondantes qui s'éteignent peu à peu, et ça se voit pas, et pourtant c'est là, en France, en Europe, mais aussi en Afrique ».
Oui, c'est ce que décrit Bruno David, c'est qu'en fait, contrairement au changement climatique dont on voit, je ne sais pas, les précipitations extrêmes, les événements comme ça absolument cataclysmiques, l'effondrement des espèces, c'est quelque chose qui se fait en silence. Ce n'est pas des oiseaux qui tombent du ciel d'un seul coup, c'est qu'il y en a de moins en moins. On n'a plus d'insectes sur nos pare-brises quand on roule en voiture, on n'a plus de petites mouches dans les yeux quand on fait du vélo, on n'écrase plus de hérissons sur les routes parce que tout simplement, il n'y en a plus. Enfin, il y en a moins. Et c'est quelque chose de silencieux et voilà, qui se fait de manière très progressive, sans forcément que ça nous alerte. Alors que ça devrait nous alerter, parce que c'est ce que dit aussi le philosophe Baptiste Morisot qu'on a interviewé pour un autre numéro, c'est qu'en fait, c'est toute cette toile du vivant, que ce soit le vivant végétal, animal, minéral, qui rend la planète habitable en fait pour nous.
Sabrina Krief, donc je le disais, vous êtes à la fois primatologue et vétérinaire, vous revenez d'Ouganda, c'est un constat que vous faites aussi en Ouganda ?
Oui, après, je travaille aussi au Muséum national d'histoire naturelle et effectivement...
Et vous connaissez bien Bruno David, son
voilà,
président.
La raréfaction est difficile à mettre en évidence ou en tout cas à faire comprendre. Mais malgré tout, on voit des cadavres et on voit des animaux blessés, mutilés par le braconnage et abîmés aussi par les maladies transmissibles, entre autres. Donc, malgré tout, on commence quand même à avoir des preuves très très tangibles, visibles sur le terrain de cette hécatombe et de ce 1 million d'espèces en voie de disparition que prédit l'IPBES, donc la plateforme qui correspond un peu au GIEC pour le climat.
Et qui sont liés aussi à la destruction des habitats des animaux.
Voilà, et ça c'est aussi très clair aujourd'hui, hein, c'est que la déforestation par exemple dans les zones où on est de plus en plus criante, c'est vraiment une extension de l'agriculture intensive, monoculture, qui petit à petit remplace ces habitats où la biodiversité était extrême. Et par exemple, le parc où je travaille, qui se trouve en Ouganda, est devenu une espèce d'île de forêt entourée de monocultures, de thé, de bananiers, etc., dont nous sommes les consommateurs. C'est-à-dire que cette production est consommée ici.
Oui, et pour bien qu'on comprenne justement quel lien entre l'habitat, la production de ces bananes par exemple, et les animaux, et la destruction de la faune et de la flore, est-ce que vous pouvez raconter comment tout ça est imbriqué ? Parce que c'est très intéressant et on l'imagine pas forcément.
Petit à petit, l'agriculture a grignoté la forêt, donc les plantations sont vraiment au contact des zones forestières et de ces habitats extrêmement riches en biodiversité, entre autres en espèces qui peuvent éventuellement transmettre des maladies. Les animaux sortent de ce parc ou de cette zone forestière qui petit à petit s'est réduite pour aller consommer certaines des cultures qui sont appétantes, par exemple le maïs ou les bananiers. Se génèrent des conflits très violents puisque les personnes qui cultivent sont souvent des gens pauvres et la production étant peu rentable, il faut arroser de pesticides pour essayer d'augmenter le rendement, ce qui n'est pas forcément toujours efficace. Et donc, ils posent des pièges ou ils vont en forêt pour essayer de se procurer du petit gibier qui est moins cher que d'aller acheter du poulet en ville. Et donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Et nous, on essaye toujours d'acheter du thé, du café ou du cacao ou de l'huile de palme ou du sucre à des prix moins chers sans se rendre compte de l'effet que ça a directement, en fait, plus ou moins sur ces populations d'animaux sauvages avec des espèces emblématiques comme l'éléphant ou le chimpanzé, mais évidemment toutes les espèces qui cohabitent et entre autres les pollinisateurs qui vivent aussi là-bas.
Alors vous parlez de cohabitation, Joël Sask, au début de votre livre Zoo Cities, donc qui est paru aux éditions Premier Parallèle, vous racontez comment justement les animaux sauvages se sont rapprochés des villes. Alors peut-être pas en France, même si en France on a pu voir des canards se promener en plein Paris à la place du Palais Royal pendant le premier confinement. Mais enfin, aussi dans le monde, comment finalement c'est le sauvage entre dans la ville.
Oui, alors il ne s'agit certainement pas du million d'espèces menacées, mais en tout cas d'un certain nombre d'espèces. Là, récemment, dans le Var, il a été question justement de l'approche du loup vers les agglomérations. Donc plus les milieux naturels sont détruits et plus les animaux cherchent à trouver leur subsistance et ils la trouvent en particulier pour certaines espèces en ville. Et donc l'irruption d'animaux sauvages en ville, c'est un problème, je pense, qu'on va devoir affronter peut-être à beaucoup plus grande échelle que ce qu'on imagine aujourd'hui.
Pourquoi ?
Mais il y a des villes qui sont déjà... parce que un certain nombre d'animaux, d'abord, sont très opportunistes. Alors clairement, certaines espèces disparaissent, mais c'est certainement pas le cas des moustiques ou des rats, des goélands, des corneilles. Donc il y a des animaux qui sont parfaitement adaptés, c'est le cas aussi des chacals, c'est le cas des coyotes, c'est de plus en plus le cas des ours. Donc il y a plein d'animaux bénéficient en quelque sorte de la ville, d'abord parce que les villes verdissent à l'échelle de la planète, un certain nombre d'entre elles, et puis aussi parce que les villes sont insalubres. Enfin, il y a toujours les deux. C'est-à-dire qu'en fait, un certain nombre de villes deviennent attirantes pour des animaux où elles trouvent un écosystème dont l'humain fait partie d'ailleurs, parce que il y a des déchets, parce qu'il y a des décharges à ciel ouvert, parce qu'il y a des eaux usées qui sont pas retraitées et qui sont également à ciel ouvert, et choses de ce genre. Donc en fait, je crois qu'il y a des tas d'animaux qui vivent de la misère humaine et de leur entassement dans des zones urbaines qui sont très insalubres. Et puis il y en a des tas d'autres qui sont attirés. Alors ça peut être les kangourous par les gazons, des golfs de Canberra ou... par les pelouses bien entretenues des riverains. Ça peut être les dromadaires qui viennent en Australie également déterrer les crimes pour accéder à l'eau. Ça peut être les ours qui trouvent une pitance dans les poubelles qui sont mal fermées ou qui se nourrissent de croquettes pour animaux. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc je crois qu'il y a toujours les deux facteurs qu'on peut considérer, et en tout cas le fait que les milieux naturels soient détruits, c'est aussi une catastrophe humaine. Je crois que c'est pas seulement une catastrophe pour les animaux, c'est une catastrophe pour les gens qui vivent dans les forêts ou des peuples dits autochtones, indigènes, etc. et qui eux se réfugient justement à la périphérie des villes et qui créent une espèce de nouvel écosystème pour un certain nombre d'animaux. Donc il y a les deux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait de plus en plus d'animaux dans les villes.
D'animaux sauvages, et bon, alors on parle évidemment d'animaux sauvages, mais aussi d'animaux d'élevage ou d'animaux domestiques. Et tous ces animaux, Marine Calmet, je me tourne vers vous qui êtes avocate, tous ces animaux ont des droits. En France, une loi est censée protéger l'animal. Plusieurs d'ailleurs, même lois.
Alors, effectivement, il existe aujourd'hui des dispositions dans notre droit qui protègent les animaux, mais en vérité, notre droit est essentiellement anthropocentré. C'est-à-dire que, en fin de compte, les animaux ne sont pas dépositaires de droits en eux-mêmes, mais en revanche, le législateur est venu, si on peut le dire comme ça, encadrer le comportement des humains vis-à-vis des animaux. Aujourd'hui, le statut juridique de l'animal, c'est celui qui est reconnu notamment dans le Code civil, c'est celui d'être vivant, doué de sensibilité. Mais les animaux sont soumis au régime des biens, sont considérés comme des choses dont les êtres humains peuvent librement disposer sous réserve du respect de certaines règles, et notamment des règles applicables en fait pour des raisons purement utilitaristes. On a défini par exemple que les animaux domestiques ne devaient pas être sujets à des comportements qui vis-à-vis d'eux mettent en danger leur vie, des actes de cruauté notamment. Ce genre de comportements sont vis-à-vis des animaux domestiques répréhensibles. Par contre, on s'autorise vis-à-vis de la faune sauvage et des animaux d'élevage des comportements qui sont des comportements de mise à mort et parfois dans des conditions très violentes.
Alors pourtant, il existe une loi qui est bien plus ancienne que celle que vous venez de citer, qui date de 1976. C'est la fameuse loi qui, elle, dépend du code rural, qui est inscrite dans le code rural, la loi L214, et qui dit que un animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Et là, on se dit que depuis 1976, cette loi n'est pas forcément respectée.
Alors clairement, aujourd'hui, si on s'interroge sur la compatibilité, par exemple, des conditions des animaux sauvages, notamment dans les zoos, on voit qu'il y a clairement deux mondes différents entre ce qui est écrit dans le texte de la loi et ce qui est appliqué véritablement sur le terrain. Et je vous parle, par exemple, de l'exemple des éléphants dans les cirques. L'éléphant, on le sait, est une espèce qui vit en troupeau, qui a une vie sociale, qui parcourt des kilomètres, parfois jusqu'à 25 kilomètres par jour, qui a aussi des rituels de deuil, d'accueil de naissance. On sait qu'ils sont extrêmement développés d'un point de vue sensible. Et aujourd'hui, nos normes qui encadrent la vie de ces animaux, notamment dans les cirques, elles imposent des normes extrêmement basses. Pour vous donner une idée, par exemple, on considère qu'un éléphant a besoin uniquement de 10 mètres carrés pour être heureux dans un enclos. En référence, par exemple, aux besoins des êtres humains, on considère que un studio, notamment les petits studios à Paris, en dessous de 9 mètres carrés, ce n'est pas compatible avec la dignité humaine. Mmh. Vous imaginez pour un animal qui fait 3 mètres et qui pèse 6 tonnes, c'est 10 mètres. Donc, en comparaison avec un humain qui fait 1m70 et peut-être 80 kilos, on voit bien qu'il y a une démesure complète entre ce qu'on s'applique à nous, êtres humains, et ce qu'on veut appliquer aux animaux pour des raisons purement utilitaristes, hein, encore une fois, c'est-à-dire que on a aussi édicté ces lois, en fait, pas en fonction des impératifs biologiques de ces espèces animales, mais en fonction des besoins que les humains en ont, et notamment dans le milieu du cirque.
Animaux sauvages ont été interdits dans les cirques. Il faut que maintenant que ça passe par le décret d'application.
Tout à fait, tout à fait. Et il faut encore que ça passe par le décret d'application. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas.
Mais bientôt, on ne verra plus d'animaux sauvages dans les cirques. On ne verra plus donc d'éléphants dans les cirques.
Oui, et la France a énormément de retard, je dois le dire, sur ces questions-là, puisqu'en fait, en Europe, nous sommes complètement à la traîne. 28 États ont déjà interdit les animaux sauvages dans les cirques, et il était plus que temps que la France s'y mette.
L'animal est-il l'avenir de l'homme ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi. On attend toujours vos commentaires, vos réactions sur le site de France Inter. Bonne journée à vous tous. Il est midi 24 et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Un collectif de 6 musiciennes et musiciens venus de New York et ce titre FYO et toute la programmation musicale est à retrouver sur le site de l'émission.
Le débat de midi à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
Quatre invités aujourd'hui pour parler du bien-être animal. Marine Calmé, qui est avocate de formation. Joëlle Zask, qui est spécialiste de philosophie sociale. Hélène Singier, qui est journaliste. Et Sabrina Krief, primatologue et vétérinaire. Alors, il y a ce mot qu'on entend de plus en plus, qui est celui de l'antispécisme. Qu'est-ce que c'est l'antispécisme, Hélène Singier ?
L'antispécisme, ce serait une manière de considérer que l'homme n'est pas à part, n'est pas séparé du monde animal, mais qu'il en fait partie, et que donc considérer qu'il y a des espèces qui seraient à son service, ou en tout cas dont il pourrait disposer, est une forme d'abus, en fait, à l'égard de ces autres animaux. Et c'est quelque chose qu'on aborde en filigrane dans les numéros du 1, c'est-à-dire que Bruno David notamment mentionne l'idée que pendant longtemps, on a été dans un dualisme.
Le directeur du musée d'histoire naturelle.
Pendant longtemps, on était dans un dualisme, c'est-à-dire l'homme est au-dessus des autres animaux, il en dispose, il doit les protéger, donc une sorte de domination ou de paternalisme à l'égard des autres espèces. On pourrait basculer dans une sorte de monisme, c'est-à-dire l'homme n'est qu'une espèce parmi d'autres, il n'a aucune responsabilité à leur égard. Et lui, il dit qu'il faut faire attention à ça, parce qu'en fait, tout ce que l'homme fait sur la planète n'est pas juste le fruit de l'évolution. Il y a aussi, un moment, le cerveau humain qui est intervenu, qui a fait des choses qui ont des impacts. Et donc, il faudrait avoir une posture de responsabilité, mais pas de domination. Essayer de trouver peut-être un équilibre entre ces deux postures-là.
Marine Calmé, sur cette question justement du spécisme et de l'antispécisme.
Oui, en fait, ça me rappelle un petit peu le titre de votre émission. Est-ce que l'animal n'est pas l'avenir de l'homme? En fait, l'homme n'est pas... l'animal et l'homme sont intimement liés. Donc, l'animal n'est pas l'avenir de l'homme, car il est lui-même un animal. En revanche, son avenir va dépendre très probablement de sa capacité à s'en souvenir et à chérir ce lien d'interdépendance qui l'unit aux autres entités de la communauté du vivant. Et étonnamment, on a déjà des jurisprudences un peu partout dans le monde qui ouvrent justement une nouvelle fenêtre vers ce que pourrait être cette relation entre l'homme et les autres animaux non humains. Notamment une décision au Pakistan en 2010 où justement un éléphant a été libéré d'un zoo parce que le juge de la Cour suprême d'Islamabad a reconnu que l'animal n'est pas une chose ou une propriété, mais qu'au contraire, les animaux ont des droits naturels qui doivent être reconnus au même titre que les êtres humains. Et donc ces droits sont inhérents à leur condition d'être vivant non humain. Donc pour vous dire à quel point aujourd'hui on peut, justement grâce aux droits aussi, ouvrir tout simplement une nouvelle page de cette relation avec les êtres humains, entre les êtres humains et les animaux, et se doter d'un droit adéquat.
Mais jusqu'où pourrait aller le droit ou les droits des animaux ?
Tout simplement à leur reconnaître des droits qui leur sont propres et qui sont adaptés à leurs besoins. Puisqu'aujourd'hui, on le voit, comme je le disais tout à l'heure, c'est que nous ne respectons pas l'impératif biologique des espèces animales, comme le prévoit pourtant notre code rural. Nous dotons d'un droit qui est purement la copie conforme, en fait, des besoins que nous en faisons. C'est-à-dire, pour les animaux domestiques, cet usage récréatif, cet usage parfois même décoratif de l'animal. Et puis pour les animaux de rente, les animaux d'élevage, nous encadrons les conditions dans lesquelles ils sont élevés, dans lesquelles ils vivent et dans lesquelles ils sont mis à mort. Et alors, pour les animaux sauvages, là, on pourrait même parler d'un Far West juridique. Toutes les pratiques quasiment sont autorisées. Malheureusement, on le voit avec des pratiques qui sont vraiment contestables, comme le déterrage du blaireau et d'autres pratiques qu'on appelle traditionnelles, qui aujourd'hui sont fortement remises en question justement par les mouvements de protection des animaux.
Sabrina Krief, votre dernier livre s'appelle « Chimpanzés, mes frères de la forêt ». Alors vous auriez dit « mes cousins », on se serait peut-être moins on aurait été moins interpellés, mais « mes frères », c'est-à-dire où est-ce que vous situez le chimpanzé, donc l'animal, par rapport à l'homme ?
Alors, c'est le plus proche parent de l'homme, oui. Donc oui, on aurait pu parler de cousins. Cependant, on fait partie de la même famille, d'un grand ordre, celui des primates. Oui, biologiquement, les humains sont des primates. Ce que je voulais aussi signifier par ce titre, c'est la fraternité et la solidarité que je ressens envers cette espèce qui est la plus proche de nous et qui est sur la voie de l'extinction. Les populations sont vraiment en déclin. 70% des populations de grands singes qui ont disparu dans les 50 dernières années. Et donc, cette sensation de fraternité que je ressens également en les étudiant et en travaillant avec eux, c'est-à-dire que effectivement, on pourrait là considérer ça comme du spécisme en disant pourquoi protéger spécifiquement les chimpanzés. Certes, je ressens plus facilement les émotions parce que phylogénétiquement, on est proche. Et donc, quand un chimpanzé rit ou quand un chimpanzé utilise un outil, oui, forcément, ça soulève quelque chose en moi et je me sens proche de lui. Après, c'est pas une raison et c'est pas l'unique raison pour laquelle il faut protéger les grands singes et certaines espèces emblématiques dont on parle aujourd'hui comme les éléphants. C'est bien pour leur rôle d'espèce clé de voûte d'écosystème, même si on peut encore penser que c'est utilitariste, mais utiliser ça pour pouvoir protéger les autres espèces et mieux faire passer un discours de sensibilisation, pourquoi pas. Ce sont aussi des espèces qui sont au cœur des cultures humaines et pour raviver ce lien entre non-humains et humains, c'est important de rappeler ça. Et une des voies aussi qu'on a tenté de discuter, entre autres avec l'UNESCO, c'est de reconnaître, en plus, pour aller plus loin un peu que le droit ou simplement la sensibilisation, un statut de patrimoine mondial, culturel et biologique pour certaines espèces. Et ça fait partie des réflexions qui sont en cours. Et ainsi, par exemple, l'éléphant pourrait être emblématique des écosystèmes de savane et des indices de notre, des indicateurs de l'état de ces écosystèmes et de l'état de, par lequel l'homme intervient sur ces écosystèmes, les grands singes sur les forêts, les baleines sur les océans. Mais là encore, c'est pas pour dire que c'est principalement eux qu'il faut protéger parce que ils sont proches de nous ou parce que ils
comme un ambassadeur médiatique en quelque sorte.
Exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner la préservation des insectes ou des rongeurs. Voilà.
Joël Zask, sur cette question justement de symétrie, si on peut appeler ça comme ça, avec l'animal.
Je pense que la pluralité ou la diversité doit l'emporter. D'ailleurs, il y a une diversité humaine qui est fabuleuse et il y a une diversité dans les responsabilités aussi humaines vis-à-vis de la destruction de l'environnement et des espèces. Donc, je crois qu'il faut le considérer. Ça serait injuste de mettre tout le monde sur un pied d'égalité en ce qui concerne la prédation, en ce qui concerne la souffrance infligée, en ce qui concerne la destruction du vivant en général. D'une part, et puis après, c'est une expression qui a été utilisée, qui était déjà chez Aristote, c'est les hommes et les autres animaux. Et donc, il y a sans doute entre une fourmi et un éléphant une différence aussi considérable que celle qu'il y a entre les humains, et le rat, par exemple. Donc, je crois que c'est important de mettre tout au pluriel, en fait, déjà pour éviter que l'antispécisme débouche finalement sur des relations non pas égalitaires mais identitaires. On n'est pas de la même famille, il y a des espèces très différentes, même si les espèces évidemment évoluent et qu'il y a des points de contact entre elles. En revanche, moi je trouve ça vraiment très important de déhiérarchiser les espèces. C'était d'ailleurs déjà un peu dans la Bible avec Noé, finalement Noé à l'ordre divin de sauver absolument toutes les espèces, de la plus petite, la plus rampante, la plus misérable, à la plus grande ou à la plus noble, peu importe. Enfin, d'ailleurs, ces termes ne sont même pas adaptés. Il faut sauver toute la création, et toute la création est importante. Donc ça, c'est une très vieille idée, mais qu'on a un peu perdu de vue. Et justement, le déboulonnage de la statue humaine, en quelque sorte, est en cours, évidemment, d'un point de vue éthique. Elle est en cours du point de vue comportemental, elle est en cours du point de vue sanitaire aussi. Je crois que la zoonose dormait un peu à notre place. Et puis aussi, moi j'ai beaucoup étudié...
Alors zoonose, peut-être juste pour les auditeurs, c'est cette idée de maladie qui est transmissible à l'homme en passant par un animal.
Oui, voilà. Enfin, merci.
Je vous en prie.
Et puis, il y a aussi le fait que finalement, on a beaucoup... J'ai étudié dans mon dernier livre comment se conduire face à un animal sauvage agressif en ville. Et on a complètement désappris les bons gestes, enfin peut-être qu'on ne les a jamais vraiment bien connus, mais le fait est que les habitants du Var s'en plaignaient récemment à propos des loups, c'est que en fait l'homme n'inspire absolument pas une peur naturelle aux animaux. D'ailleurs, les animaux ont une prudence, ils ont une capacité d'observation de nos comportements et d'ajustement à l'évolution de nos comportements qui est assez incroyable, surtout quand on la compare à la fixité de certaines de nos croyances. Et ils agissent en conséquence. Bon, on ne peut pas dire qu'ils font comme nous, qu'ils raisonnent, qu'ils ont le même esprit que nous, pas du tout. Ils n'ont pas de langage articulé, des choses de ce genre. Mais le fait est que nous observer, en quelque sorte, à travers la manière dont les animaux nous observent, ça nous apprend énormément de choses. Et en particulier, c'est vrai que la posture de domination est une posture tout à fait dramatique et dont les conséquences sont extrêmement graves. Mais il faut bien voir que on est de plus en plus dans des situations où on n'est pas du tout les maîtres de la situation, justement.
Marine Calmet, sur cette domination, justement, est-ce que vous pensez que l'homme doit descendre de cette pyramide sur laquelle il s'est hissé ?
Alors effectivement, je crois véritablement que justement le mouvement pour la reconnaissance de droits fondamentaux à des animaux, comme socle justement commun de la communauté du vivant, c'est un peu comme une révolution copernicienne. C'est-à-dire que il y a un moment où les scientifiques ont établi, notamment Galilée, que la Terre n'était pas le centre de l'univers, que tout ne tournait pas justement autour de l'être humain et de la création divine, comme a dit Joël Zask, mais qu'au contraire, aujourd'hui, on découvre, et notamment grâce aux scientifiques, que l'être humain doit intégrer le fait qu'il fait partie de cette communauté du vivant parce qu'il dépend, sa survie dépend intrinsèquement de son écosystème, des autres espèces. Et on en parle beaucoup, notamment des pollinisateurs pour son alimentation, mais de toutes les autres espèces. Chaque année, nous tuons des milliards, 1,380 milliards d'animaux sont tués chaque année pour nourrir les êtres humains. 3 millions sont tués en France. Donc nous dépendons absolument aujourd'hui, malheureusement, de ce système d'exploitation de l'animal. Et donc remettre en question ce système d'exploitation, doter l'animal de droits fondamentaux, il me semble que c'est essentiel pour créer en fait cette révolution copernicienne, réintégrer l'être humain au sein de la communauté du vivant.
Et, mais à quel niveau est-ce qu'il reste au-dessus des animaux en général? Parce que c'est ça la question.
En fait, je pense qu'il faut éviter justement cette relation pyramidale, c'est-à-dire qui en fait nous place en haut de la pyramide et notamment en haut de la chaîne alimentaire pour justement intégrer le fait que nous sommes interdépendants et que nous dépendons justement de cette relation avec les autres êtres vivants. Mais il y a aussi clairement, il faut réaffirmer le fait que nous sommes responsables, c'est-à-dire l'humain, comme on l'a dit, est doté d'un cerveau, il fait des choix et donc il peut prendre des décisions pour orienter cette communauté du vivant vers une harmonie, c'est-à-dire aller chercher un mieux-être pour tous, pas uniquement pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux non humains. Et c'est vraiment un objectif de société, je pense, que nous devons nous fixer, trouver justement une nouvelle manière de vivre ensemble. Et aujourd'hui, nous le voyons notamment avec justement la crise du Covid, le fait que l'homme a une pression aussi énorme sur les espaces naturels, crée des zones de contact avec des animaux sauvages, engendre justement ce type de pandémie qui met en danger nos sociétés. Donc il serait vraiment plus que temps de se souvenir du danger aussi que constitue ce genre de pression exercée sur les écosystèmes et de se poser la question, est-ce que les animaux n'auraient pas le droit eux aussi à un espace de vie, à des droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à la régénération de leurs cycles vitaux, le droit à la famille, le droit en fait tout simplement de vivre sereinement dans un espace naturel. Et d'ailleurs, il y a de très beaux textes déjà que je vous invite à lire, notamment la Déclaration de Toulon, qui pose les bases d'une réflexion sur la reconnaissance des droits fondamentaux des animaux et qui nous amène à considérer le fait d'introduire peut-être dans notre droit français les droits fondamentaux des animaux.
Alors, ça pose de nombreuses questions, évidemment. Quels seraient ces droits fondamentaux pour les animaux? Et puis, quand on parle aussi du bien-être animal, ça pose tout simplement cette question. Comment peut-on mesurer le bien-être animal, Hélène Singier?
Alors, on n'a pas forcément abordé cette question dans les numéros du 1, mais c'est vrai qu'il y a une révolution théorique qui a été mise en branle avec Darwin, en fait, en 1859. Ça date quand même. Et en fait, ce que nous dit Baptiste Morisot, le philosophe, c'est que c'est comme si cette révolution théorique, on n'en avait pas tiré toutes les leçons. Ok, on est tous cousins, mais en fait, on reste les chefs et puis on décide si un animal doit mourir, disparaître ou être protégé, etc. Donc, il y a comme un petit cliquet qui n'a pas été activé. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Jane Goodall, qu'on a interviewé aussi dans un des numéros, dit qu'elle compte beaucoup sur la jeune génération.
Donc, la célèbre primatologue.
Voilà, elle dit on peut, les jeunes ont la capacité de faire changer leurs parents, leurs grands-parents, qui sont des politiciens, qui sont des PDG. Et voilà, elle mise vraiment sur la jeune génération.
Mais c'est ce que vous expliquez aussi, c'est que cette question qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui, qui traverse vraiment la société française, elle n'était pas audible il y a quelques années. Oui. Sans qu'on soit taxé de hippie ou de rétrograde, ou de, pour reprendre les mots célèbres, de quelqu'un qui voudrait s'éclairer à la bougie.
Exactement. En fait, il y a ce que dit Jane Goodall également. Elle dit, voilà, moi j'ai grandi, donc, je ne sais plus, dans les années 60, si je ne la vieillis pas trop ou la rajeunis pas trop. Et elle dit, voilà, à l'époque, on ne savait pas. On ne savait pas qu'une espèce qui disparaît, c'est une catastrophe pour tout un écosystème. On savait pas que, on n'avait pas intégré que nous, les humains, on dépend du ver de terre, de la fourmi, de l'abeille. On n'avait pas intégré ça. Mais elle dit, aujourd'hui, on sait, donc on n'a plus d'excuses. Alors, on sait au niveau du grand public, je vous vois. C'est vrai qu'on
oui,
le sait théoriquement.
Dans notre société occidentale, mais les populations locales qui vivent au contact de la nature ont bien cette cosmologie en tête. Hein, mm-hmm. Et si on ne les exclut pas de ces espaces naturels, ils ont la connaissance de ces relations très fortes. Je voulais juste réagir sur votre question autour du bien-être animal et comment on le mesure. Ça aussi, la recherche doit avancer vite. pour pouvoir mettre en relation ce qu'on observe sur le terrain en milieu naturel et ce qui pourrait être appliqué dans nos zoos ou cirques ou voilà. Et là, bien souvent, on a considéré que simplement le fait qu'un animal se reproduise, c'était un
suffisant.
Signe, voilà, et de vouloir justement continuer.
Et pour vous, c'est pas suffisant.
Pour moi, pour moi et pour la plupart des chercheurs, c'est pas suffisant. En effet, on a vraiment réaffirmé le fait que l'aspect social est crucial. On parlait tout à l'heure des éléphants, mais c'est la même chose pour la quasi-totalité des mammifères et des vertébrés qui sont aujourd'hui dans les parcs zoologiques. Donc prendre en compte ces relations sociales et ces interactions sociales, ça fait partie complètement du comportement et de la biologie de l'individu. Il ne suffit pas d'avoir un animal bien nourri. C'est évidemment indispensable, crucial, mais il faut aller au-delà de la survie dans des espaces trop petits et qui ne permettent pas forcément les interactions sociales.
La question aussi, c'est que pouvons-nous faire, nous, à notre échelle de citoyens ou même tout simplement de consommateurs? Il y a des associations, mais aussi des distributeurs et des producteurs qui sont regroupés avec l'idée de mettre en place une étiquette de bien-être animal, c'est-à-dire une étiquette quand on irait acheter de la viande au supermarché ou chez le boucher, peu importe, hein, avec un organisme qui se montrerait garant du respect du bien-être animal de sa naissance à l'abattoir. Est-ce que ça, pour vous, c'est une bonne chose, Marine Calmet?
Alors, effectivement, c'est vraiment un progrès, on pourrait considérer ça comme un progrès, mais ça ne prend pas, encore une fois, le problème à la racine, c'est-à-dire de notre relation tout simplement avec le vivant et donc des droits fondamentaux. Bien sûr qu'on peut prendre des normes sectorielles, interdire la fourrure, interdire la chasse en enclos, mais posons-nous la question de quelle société nous voulons construire ensemble. Et aujourd'hui, avec l'association Wild Legal que j'ai fondée en 2019, nous montons un procès simulé l'année prochaine pour justement interroger l'impact très concret de la reconnaissance des droits fondamentaux des animaux, notamment dans le cadre justement de l'exploitation intensive des porcs en Bretagne et des impacts que ça a notamment, par exemple, en matière de pollution, des algues vertes, quelque chose qui ravage à la fois les territoires de France et qui a des conséquences extrêmement graves pour les générations humaines et les générations animales qui subissent ce fléau écologique. Et donc, on voit bien, en fait, le lien intrinsèque entre le droit des animaux, notre relation à l'animal et la préservation des espaces naturels. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens d'agir pour justement se questionner sur ces questions, sur ces problématiques.
Est-ce que se questionner, c'est agir, justement? La question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire concrètement?
Alors, très concrètement, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place dans la société civile. Je suis d'ailleurs très heureuse d'être la marraine de la prochaine campagne qui est lancée par l'association On est prêt, donc ce qui s'appelle Zone Sauvage et qui sera lancée officiellement le 2 septembre. C'est une campagne de mobilisation justement autour de la 6e extinction de masse, avec un focus donc sur les animaux menacés en France métropolitaine. Et pendant plusieurs semaines, donc On est prêt donnera des clés d'action pour devenir des gardiens de la nature. Et l'objectif, c'est d'alerter massivement, d'apprendre à se réémerveiller du vivant et participer au réensauvagement en finançant des infrastructures de soins pour les animaux sauvages, pour racheter des terres, justement, et faire en sorte, justement, de créer des espaces dans lesquels ces animaux sont en sécurité. Et donc, il y a des moyens très concrets aujourd'hui d'agir pour la préservation du vivant et on vous en dira plus dès la rentrée.
La question du bien-être animal est donc aussi liée à celle du bien-être de la planète. Hein. C'est ce qu'on se demande aujourd'hui dans le débat de midi. On attend toujours vos commentaires, vos réactions sur l'appli ou sur le site de France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Mon ancêtre n'a pas de nom, son exil est éternel. Les larmes que nous pleurons ne nous appartiennent pas. D'azur et de souffrage sont les sacrifices qu'emportera le silence. sous le bleu du vitrail, le parfum des sacrifices, sous les pointes du corail, le pourpre des cicatrices.
La franco-brésilienne Indie et ce titre Noir Brésil, il est midi 49.
Le débat de midi sur France Inter.
Quatre invités aujourd'hui pour parler du bien-être animal. L'avocate Marine Calmé, la spécialiste de philosophie sociale Joëlle Zask, Hélène Singier qui est journaliste, et Sabrina Krief, primatologue et vétérinaire. Et puis vos messages qui nous arrivent. Sophie nous dit « La réglementation est très insuffisante pour garantir une protection minimale des animaux dans les élevages, dans les transports et dans les abattoirs. Regardez les innombrables vidéos de l'association L214. Pratiquement aucune sanction et un projet de loi pour punir les lanceurs d'alerte. » Alors il y a quand même eu quelques sanctions, il y a quand même eu des abattoirs qui ont été condamnés à des amendes et des peines de prison de sursis pour des directeurs d'abattoirs. David nous dit, chaque été nous assistons à l'abandon d'animaux de compagnie, quid d'une formation obligatoire avant de pouvoir adopter un animal, d'un permis spécifique. Justement, la loi de 2021 propose une sorte de permis spécifique pour les maîtres ou les propriétaires, je ne sais pas comment il faut dire, d'animaux domestiques. Et puis Irène qui nous dit à propos de la pandémie actuelle, beaucoup de scientifiques s'accordent à dire que déforester comme l'Amazonie ou aussi l'Indonésie, d'urbaniser, de coloniser les lieux dédiés aux animaux. Les animaux sont obligés de se déplacer. Certains d'entre eux ont permis à des virus de franchir la barre des espèces. On en a en effet parlé, sans parler des élevages intensifs où les animaux sont entassés, d'où l'émergence des grippes aviaires à répétition dans les élevages de poulets, de porcs. Alors remettons en question nos modes de production. La remise en question justement des modes de production, c'est aussi une action concrète qu'on peut mener en tant que citoyen.
Oui, parce que malgré tout, c'est la labels peuvent être critiqués, etc. Mais effectivement, si on a un indicateur du bien-être, si on sait qu'un produit est biologique ou commerce équitable, ça permet quand même aux consommateurs de choisir en étant éclairés par ces indications, sachant qu'un produit bio permettra de réduire la pollution, qui aujourd'hui, on s'en rend de plus en plus compte, a un effet très fort sur l'ensemble de la faune sauvage également, sur sa santé et sur sa survie. Donc oui, remettre en cause nos modes de production et savoir d'où viennent nos produits, les tracer. Par exemple, la plupart de nos produits du petit déjeuner viennent des zones tropicales. Donc quand on s'interroge et qu'on se dit à des milliers de kilomètres, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour protéger les éléphants, les grands singes, etc. Oui, en choisissant justement des produits qui sont issus de l'agriculture durable, de l'agroforesterie, qui permet de réintroduire de la biodiversité et des plantations d'arbres qui sont autochtones, bien sûr, hein, en essayant de vraiment favoriser tout ça. Le commerce équitable, pourquoi ? Parce qu'avec des meilleurs revenus, les locaux n'ont pas besoin d'aller braconner, enfin en tout cas sont...
Ça c'est ce que vous constatez quand vous êtes
au quotidien.
Ça fonctionne, il y a une répercussion du geste du consommateur qui va acheter un produit commerce équitable jusqu'en Ouganda où vous êtes
souvent. Bien sûr, là, vous êtes souvent. Notre projet qu'on est en train de développer est un moyen de pouvoir offrir un marché aux petits producteurs locaux d'un thé qui soit plus respectueux du bien-être animal, mais aussi du bien-être humain. Parce que un employé des sociétés de thé là-bas gagne parfois seulement $1 par jour pour collecter des centaines de kilos de feuilles de thé. Il est logé dans un camp qui est tout proche de la forêt, donc bien sûr, avec $1 par jour, il ne peut pas aller acheter de la viande en ville élevée de façon plus ou moins raisonnable. Et donc, forcément, il va braconner dans la forêt. Et là encore, l'animosité contre le parc est de plus en plus forte parce que les rangers emprisonnent ou mettent des amendes à ces personnes qui sont déjà très pauvres. Et donc, le conflit est encore envenimé. Voilà, donc c'est une espèce de cercle vicieux. Et oui, nous, en tant que consommateurs, par ce biais-là, en choisissant nos produits, on peut agir directement.
Alors, à l'intérieur de l'un des numéros que le 1 consacre au monde sauvage, on trouve un poster illustré qui nous montre le risque imminent d'une sixième extinction, c'est-à-dire bah, la nôtre, celle de l'Homo sapiens. Est-ce que c'est possible pour vous, Hélène Singier, une sixième extinction?
Bah c'est pas moi qui en juge, mais en tout cas, tous les scientifiques s'accordent à dire qu'on est sur la pente d'une extinction massive des espèces similaires aux cinq extinctions que notre planète a déjà connues, suite à différentes actions. Ça peut être la chute d'un météorite, une période glaciaire brutale, etc. Sauf que cette fois-ci, la cause, ce serait l'homme qui aurait tellement déréglé le fonctionnement de l'écosystème planétaire qu'en fait, il y a des millions d'espèces qui ne trouveraient plus l'équilibre nécessaire à leur survie.
Joël Zask.
Oui, non, c'est pas à moi d'en juger non plus, mais...
Non, mais vous avez un point de vue sur la question.
Le point de vue, c'est que si on était convaincu que nous allions vers l'extinction absolue de notre espèce, on ne ferait plus rien et on se tendrait les pouces, on attendrait que ça vienne, ou on s'enivrerait du matin au soir. Donc, clairement, si on écrit, si on parle, si on débroussaille un coin de terrain, si on lutte pour la baisse de la souffrance animale, c'est parce qu'on pense qu'il y a un avenir pour l'espèce humaine. Et je le pense profondément, je reste optimiste, mais il y a un certain nombre d'actions très énergiques qu'il faut entreprendre dès maintenant pour le climat, contre le dérèglement climatique, contre les émissions de gaz à effet de serre, contre toutes les activités destructrices, finalement, non pas de la planète qui nous survivra, ça, il n'y a aucun souci à se faire, mais la destruction des conditions de vie humaine sur la Terre.
Oui, ça montre bien. Donc, que c'est...
On y va, mais on pourrait peut-être, réinitialiser notre comportement de manière à ne plus y aller.
Mais ça montre bien que la réflexion est globale, Joël Zask. C'est-à-dire qu'on est parti du bien-être animal et là, on arrive à la destruction de la Terre.
Eh bien oui, bien sûr. Je pense que, de fait, la réflexion sur la destruction, enfin la réflexion écologique, c'est une réflexion sur notre relation à notre environnement. Et je pense qu'il y a des relations à l'environnement qui sont constitutives de nos conditions de vie et de notre futur. Et il y a au contraire des relations avec l'environnement qui, parce qu'elles sont unilatérales ou parce qu'elles elles sont destructrices, finalement hypothèquent nos chances. Donc je crois qu'effectivement, les relations avec les animaux, c'est les relations avec le vivant en général, avec la planète, avec l'environnement. Mais sachant qu'on ne peut pas avoir un comportement parfaitement neutre et j'ai presque envie de dire objectif, c'est-à-dire que notre environnement, c'est l'ensemble des conditions qui constituent nos chances de vie sur la Terre. Et nous n'avons pas accès à la totalité des réalités hors de nous. Voilà, nous en connaissons qu'une infime partie. Donc je crois que c'est avec cette partie-là qu'on connaît, sur laquelle, comme ça a été dit, on a une responsabilité vis-à-vis de laquelle une connaissance est possible, que nous devons agir.
Marine,
une action très énergique est requise absolument.
Marine Calmé.
Oui, j'en profite du coup pour parler d'une situation qui me touche beaucoup, et notamment la situation en Guyane française, puisque je suis porte-parole aussi du collectif Hors de Question, qui est le collectif opposé à l'industrie minière en Guyane.
Et vous vous rendez souvent en Guyane.
Et typiquement, c'est un territoire qui est vraiment symptomatique de la relation que nous avons avec les écosystèmes et notamment des animaux. Puisque je rappelle que le projet Montagne d'Or, donc situé en plein cœur de forêt amazonienne, il menaçait 127 espèces protégées. Et heureusement, nous avons, par force de mobilisation, obtenu en tout cas l'arrêt momentané de ce projet, en tous les cas les déclarations du gouvernement. Mais j'en profite pour justement parler de cette situation juridique assez instable, assez incompréhensible, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'être humain dresse des listes assez longues d'espèces protégées, parfois menacées sur son territoire, sauf que autant on pourrait écouter les scientifiques et se dire, dans ce cas-là, si ces espèces sont protégées, on ne doit en aucun cas perturber leur écosystème, leur habitat, leur manière de se reproduire. Et pourtant, il existe la possibilité de déroger à ces normes qui sont censées protéger les animaux, les espèces animales et végétales. Et aujourd'hui, donc, sous prétexte d'avoir justement ces possibilités de dérogation, on peut demander à détruire leur habitat naturel. Et donc, dans ce cas,
par exemple, qui revient à détruire les espèces qui sont des espèces protégées.
Mais bien sûr, et donc parce qu'on voudrait construire une mine, creuser le sol, aller chercher de l'or, une compagnie minière pourrait obtenir le droit de détruire ces espèces animales et végétales. C'est totalement incompréhensible, c'est-à-dire que notre droit est un droit opportuniste. Pour des raisons justement strictement anthropocentrées, on pourrait ensuite contourner notre obligation de protéger ces espèces face à l'extinction de leur territoire et de leurs conditions de vie. Et donc on voit bien que notre droit est biaisé par les besoins humain et qu'il faut réintroduire cette notion justement de commun, de protection de nos droits à tous, animaux humains et non humains.
Hélène Singier, vous prenez l'exemple dans le Hain de la réserve de Chacana où pour protéger les condors, le braconnage a été interdit, la flore locale a aussi été protégée. Du coup, les lapins sont revenus, ce qui a donné plus à manger pour les condors. Donc du coup, comme il y en avait trop, eh bien les pumas sont revenus. Et en fait, c'est comme ça qu'on découvre aussi comment tout s'imbrique.
Oui, complètement. En fait, on se rend compte que le vivant est évidemment mille fois plus complexe que ce qu'on imagine. Donc, en fait, c'est effectivement une fondation qui a acheté un ancien ranch en Équateur pour y protéger le condor, qui est un animal emblématique du pays. Et donc, pour protéger le condor, ils ont mis en place tout un tas de mesures qui, par ricochet, en fait, par percolation, comme ça, ont fait que la chasse est interdite. Donc, il y a plus de lapins, il y a plus de daims. Donc, il y a des pumas qui viennent manger les lapins et les daims. Puis, il y a aussi des ours à lunettes qui reviennent, etc. La flore est rétablie, donc il y a plus de colibris et tout. Et on voit l'effet d'entraînement. Et ce qui est intéressant, et là où on revient au rôle du consommateur, c'est que c'est financé en partie par le tourisme.
Eh bien, merci à vous quatre d'avoir été en direct avec nous. Le débat de midi, c'est fini, mais on se retrouve demain pour la dernière émission de l'été consacrée aux ronds-points. Où mènent les ronds-points ? C'est la question qu'on se posera et on attend déjà vos commentaires sur franceinter.fr.